grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui le docteur Yvonne Iyamulemye-Kabano. Elle est ancienne vice-ministre des anciens combattants au ministère de la Défense nationale et des anciens combattants dans le gouvernement Gizenga 1. Vous êtes aussi médecin.
Oui.
Et ancienne PCA.
Oui, oui.
De l'Institut National de Statistique.
C'est ça.
Alors, on va vous présenter auprès des auditeurs des Radio Capi qui nous suivent en ce moment. On va leur parler de votre parcours, oui, de vos débuts dans la politique. Vous êtes aussi une femme politique aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la politique? Comment vous vous êtes défendue au ministère de la Défense? Je crois que c'est la première fois d'avoir quand même une femme à ce ministère-là.
C'est ça, oui.
On va en parler dans cette émission. Mais avant tout, on va commencer par une petite biographie de votre personne. Vous naissez un certain 16 novembre à Goma.
Oui, je suis née à Goma le 16 novembre
1968.
Donc, il y a quelques jours. 4 jours que j'ai eu 45 ans.
Bon anniversaire,
merci.
Mieux vaut tard que jamais.
Merci.
Alors, c'est à Goma où vous avez passé votre enfance?
C'est ça, j'ai passé toute l'adolescence. Dès que j'ai eu les diplômes d'État, que je suis arrivée ici à Kinshasa.
Diplôme d'État en section scientifique, option biochimie.
C'est ça. Donc, j'ai étudié, j'ai fait l'école maternelle. J'ai eu la chance de faire quand même l'école maternelle à Goma. Et puis, je suis allée à l'école primaire Chipuko, que beaucoup de gens connaissent, surtout beaucoup des filles. Et ensuite, après...
C'était un lycée?
Non, l'école primaire.
D'accord.
C'est l'école primaire.
Alors, pourquoi vous dites surtout les filles? Il y avait beaucoup
parce
de filles.
Parce que la plupart des filles de cette époque, c'était l'école des références où toutes les filles allaient à l'école primaire.
Mmh.
Et donc, j'ai fait l'école primaire Chipuko. Ensuite, je suis allée au lycée Amani de Goma. C'est un lycée très connu aussi hein, dans toute la région. Et un lycée quand même assez prestigieux hein, qui était tenu par qui est toujours tenu par les sœurs Bernardine. Et c'est là donc j'ai eu mon diplôme d'État en section biochimie.
Vous avez grandi dans quelles conditions, docteur Yvonne Iyamulemye?
Je pense quand même que bon, j'étais une privilégiée parce que ma mère était enseignante à l'école primaire Chipuko et puis mon père aussi était enseignant. Lui, c'était plutôt à l'école des garçons, l'école primaire Karisimbi. Il a été préfet de l'Institut Mwanga de Goma et ensuite, à la fin, il a terminé comme comptable du diocèse de Goma. Et donc, j'ai grandi quand même dans de bonnes conditions, on peut dire, oui. On peut dire que j'ai grandi dans de bonnes conditions.
Quel est le souvenir que vous avez le plus marqué pendant votre enfance à Goma, pendant que vous grandissiez?
Les souvenirs que j'ai gardés, c'est l'ambiance familiale, l'ambiance du quartier. Vous savez, aujourd'hui, quand on voit Goma, on voit l'Est de la République, c'est la guerre hein, qui ressort directement. Mais nous, quand on a grandi, on vivait dans un milieu assez paisible et puis une ambiance bon enfant. Hein,
voilà. On disait même que c'était l'Europe de la RDC, Goma.
Oui, c'était...
Par rapport au climat.
Par rapport à l'alimentation, par rapport à la mentalité des gens. Ce qui fait que moi, quand je suis arrivée à Kinshasa, en fait, c'était un choc. D'abord, le climat. J'ai trouvé que il faisait trop chaud. Ensuite, je voyais les gens... Trop de monde et les gens qui vivaient à 100 à l'heure. Donc, vraiment, quelqu'un qui avait passé toute son enfance dans un milieu comme Goma, arrivé à Kinshasa, vraiment, il y a une rupture.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie, docteur Yvonne?
Qu'est-ce que je n'aime pas dans la vie? Je n'aime pas ce qui est faux. J'aime le vrai, la franchise, c'est ça.
Votre plat préféré?
Mon plat préféré, comme toute fille du Kivu, ce sont les haricots. Avec les bisamounes, je ne sais pas si vous connaissez.
Je connais voilà. Les bananes.
C'est ça mon plat préféré, avec du poisson.
Alors docteur, après avoir obtenu votre diplôme d'État, vous êtes venu à Kinshasa pour l'université.
C'est ça, je suis arrivée à l'université en 1987 pour faire la médecine. Mais vous savez, à cette époque, quand nous sommes arrivés, c'était pas facile d'avoir une inscription à l'université de Kinshasa. Et donc, j'ai encore une fois eu la chance. J'ai été inscrite à la faculté de médecine. Mais également...
Pourquoi vous dites que c'était pas facile?
C'était très sélectif l'inscription à l'université de Kinshasa. Et puis, bon, à cette époque-là, je pense qu'il y avait encore beaucoup de rigueur. Ben, je ne dis pas qu'aujourd'hui, il n'y en a pas, mais ce n'était pas évident d'avoir une inscription à l'université de Kinshasa. Et moi, comme je vous l'ai dit, j'ai pu quand même être inscrite à la faculté de médecine, mais également à l'ISTEM, à l'Institut de technique médicale, supérieure de technique médicale. Donc, j'ai pu avoir deux inscriptions. Et c'est donc mon oncle, chez qui je suis arrivée, qui va me dire, écoute, je sens que tu as des capacités, fais quand même la médecine, tu es capable de le faire. Entre temps, je me disais, mais la médecine, c'est beaucoup d'années. Bon, finalement.
Vous êtes décidé de faire la médecine.
J'ai fait la médecine. Et donc, j'ai commencé la médecine la première année. Et puis, il faut noter aussi que ces années-là, l'université était très politisée. Les jeunes suivaient enfin, je ne sais pas politisée, mais en tout cas très manipulée par les politiciens.
Les politiques.
Et donc, si je compte bien, pendant tout mon parcours dans la faculté de médecine, j'ai connu 4 ans de fermeture. Pendant 4 ans, nous avons chômé et par la pression de la communauté internationale, finalement,
on a réouvert l'université.
Ce qui fait que pour terminer ma médecine qui dure normalement 7 ans. J'ai fait 11 ans. Avec 4 ans de fermeture.
C'est quand même trop.
C'est quand même beaucoup. Comme j'aimais vraiment, je voulais vraiment, c'est pour ça que j'étais venue à Kinshasa. Comme je voulais vraiment terminer ma médecine, je me suis dit, écoutez, j'ai commencé, je ne peux pas m'arrêter.
Quand vous teniez vraiment à faire la médecine?
Bon, voilà, j'avais fait d'abord la section biochimie et donc je me sentais orientée vers les sciences biologiques, les sciences de la santé. Et puis je me souviens une fois ma mère avait fait une crise d'hypertension et donc de toute petite je me disais non, je dois faire la médecine pour pouvoir aider ma mère. Bon, ce qui n'est pas dans la déontologie médicale, je ne pouvais pas
soigner un proche.
Voilà. Mais en fait, c'est ça qui m'a. D'abord, le fait que j'ai fait la biochimie, ensuite, le fait que je voyais ma mère souffrante, je dis non, je dois faire la médecine.
Vous êtes mariée, mère des 5 enfants.
Oui, j'ai 5 enfants. Et les enfants, je vous ai dit que l'université a été très long. Et donc, pendant mon cursus académique, je me suis entre-temps mariée parce que bon, pendant les fermetures, donc en premier doctorat, je me suis mariée et donc j'ai commencé à faire les enfants pendant que j'étudiais encore.
Et parmi vos enfants, il y en a qui ont choisi de faire la médecine.
Tous mes enfants veulent faire la médecine, donc c'est pour vous dire que j'ai prêché la médecine même jusque dans mon foyer.
Radio Capi. Grand témoin.
Grand témoin, vous fait découvrir Dr Yvonne Iyamulemie Kabano. Elle est ancienne vice-ministre des anciens combattants au ministère de la Défense nationale, ancien combattant pendant le gouvernement Gizenga A, ancienne PCA. À l'Institut national des statistiques. Docteur, on va parler de votre parcours professionnel.
Oui.
Après vos études universitaires, vous avez commencé directement à travailler?
Oui, j'ai
vous avez chômé un
non,
peu?
Non, je n'ai pas beaucoup chômé. J'ai terminé vers la fin de 1999 et au mois de juin 2000, j'étais déjà engagée et je suis directement entrée au programme national de lutte contre les SIDA.
Où PNLS.
PNLS. À cette époque-là, on n'avait pas encore créé le PNMLS. Et donc, je suis arrivée au programme national de lutte contre les SIDA comme chef de division de la prévention. Et là, mon travail, c'est au niveau national, hein, mon travail consistait à... Nous avions donc un rôle normatif, donc à élaborer les normes et les directives pour ce qui me concerne, c'était en matière de la prévention, de lutte contre le VIH-Sida. Nous devions coordonner toutes les activités qui se font dans les différentes provinces. Nous devions former les formateurs parce que, bon, la politique était définie par le gouvernement. Uh-huh. Mais nous, au niveau de la direction centrale, nous devions assurer la formation de ceux-là qui devaient encore former ceux qui iront jusque plus bas, quoi. Quand j'étais au PNLS, le plus grand axe qui m'avait intéressé, c'était la prévention de la transmission de la mère à l'enfant du VIH-Sida, où il y avait un engouement parce que à cette époque, il fallait élaborer les normes, les directives par rapport à cela et assurer la formation. Et c'était quand même très très intéressant. Donc je m'étais un peu orientée vers la prévention de la transmission mère et enfant du VIH-Sida.
Est-ce que vous êtes toujours dans le programme?
Non, j'ai été appelée à exercer d'autres fonctions. Voilà pourquoi.
Politique?
Non seulement politique, parce que après le programme national de lutte contre les SIDA, je suis allée au programme national de santé des jeunes et des adolescents. Et là, je m'occupais de la santé, de la reproduction, des santé des jeunes, des adolescents.
Vous êtes médecin.
Oui.
Mais entre-temps, vous vous êtes tourné vers la politique.
Oui.
À quel moment, qu'est-ce qui vous a intéressé dans la politique?
Bon, vous savez, on ne sait jamais vraiment à quel moment on commence la politique. Des souvenirs que j'ai à l'université de Kinshasa, je vous ai dit qu'à un moment donné, c'était un milieu très fortement politisé. Et donc, des groupes ont commencé à se former et moi, j'ai adhéré au groupe des gens qui provenaient de chez moi. Et là, j'ai commencé d'abord à adhérer à ceux-là qui venaient de ma province, de mon territoire d'origine qui est Rutshuru, vous avez bien vu. Mm-hmm. Donc, mes parents moi-même, je suis originaire de Rutshuru. Et donc, je me suis lancée dans l'association des étudiants ressortissants des Rutshuru. Et là, dans ce groupe, j'ai postulé, hein. Je me disais, je n'allais pas être une femme seulement qui applaudit dans ces groupes.
Simple membre.
Simplement. Je me dis non, il faut que j'ai une fonction dans ce groupe-là. Je suis même arrivée à être vice-présidente de la coordination nationale de tous les étudiants
ressortissants de Rutshuru.
Bon, ça c'est la première chose qui fait dire à ceux qui me connaissent qu'on sentait déjà que j'avais un grain de politicien, il y avait un grain de politicien en moi. Et après, je suis devenue, 2 ans plus tard, il y a une association de tous ceux qui avaient connu Goma. Donc c'est une association non seulement qui regroupait ceux qui avaient grandi à Goma, mais d'autres tribus aussi, hein, d'autres personnes. Donc c'est
Goma,
qui ont vécu à Goma et qui aiment Goma. Donc Goma c'est un milieu cosmopolite qui comprend beaucoup de gens de milieux différents. Et là, dans l'association qui s'appelait Amigo, je suis entrée aussi dans le comité. Je me souviens, j'étais trésorière ou secrétaire, quelque chose comme ça. Et donc voilà, c'est
pendant donc, dans tous les mouvements où vous êtes passée à l'université, vous vouliez avoir une fonction.
Je me disais que je ne pouvais pas être une applaudisseuse, si le mot existe. Je me disais non, il faut aller quand même que j'assume des fonctions dans le groupe, quel que soit.
Être peut-être dans le comité des prises de décision.
Voilà, c'est donc comme ça que bon, je pense que la politique est arrivée. Je me souviens également que étant mariée, il y a une association. Mon mari, il est professeur à la faculté de pharmacie, et donc les femmes aussi créaient des associations. Il y a l'association des femmes. Des épouses, des professeurs et des assistants de la faculté de pharmacie. Bah, là aussi, je me suis dit non, il faut que j'ai un poste. Je suis devenue vice-présidente de cette association. Donc voilà, c'est comme ça que la conquête du pouvoir a germé en moi. Quand beaucoup de partis politiques ont commencé à se former, il y a des gens qui me connaissent, qui m'ont dit non, il faut que tu t'intéresses tu fasses la politique.
La vraie politique.
La vraie politique. Alors, il y a des politiciens des différents partis politiques qui ont commencé à me solliciter. Mais je me disais, si je rentre dans un grand parti politique, je ne pourrais pas m'exprimer, je sentais que
j'étais étouffée.
Alors je me suis dit non, il me faut un bon parti, même si c'était un petit parti politique, mais dans lequel je peux m'exprimer ou on peut entendre ma voix. Et donc voilà, c'est comme ça que en 2004 ou 2005, j'ai adhéré dans un parti politique de chez moi. Je suis allée faire la campagne dans les élections
de 2006.
Je suis allée, j'étais candidate dans le Rutshuru. Et là, nous avons eu l'avantage de faire passer un député. Nous avons fait passer un député.
Vous étiez vous-même candidate?
J'étais candidate, mais sur la liste, moi-même, je ne suis pas passée. Mais quand même, mes voix ont permis à ce que nous puissions faire passer celui qui avait le plus de voix sur notre liste. Et donc, voilà, nous avons pu avoir un député. Et avec les autres députés de notre parti, nous avons pu avoir aussi des postes au gouvernement. Et le poste du ministère, le vice-ministre des anciens combattants, revenait à ceux de Rutshuru. Comme on avait déjà les députés, ces députés considéraient que, bon, mes voix quand même avaient permis à ce
qu'il
puisse être élu, le poste de vice-ministre des anciens combattants est automatiquement m'est revenu.
Alors c'était la première fois que vous puissiez occuper un si grand poste ministériel et politique en même temps, sans aucune expérience.
Oui.
Comment ça s'est passé pour vous?
Bon,
quand vous avez suivi à la télévision votre nomination, c'était quoi votre réaction?
Ben écoutez, la première fois qu'on m'a dit que voilà, est-ce que vous voulez être vice-ministre des anciens combattants? Moi, je n'en revenais pas. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire
à ce ministère,
la défense, qu'est-ce que je veux faire? Mais vous savez, il n'y a pas de magie. Il ne faut pas dire que je n'avais pas vraiment d'expérience, parce que tout celui qui entre au gouvernement, je me demande quelle expérience on voudrait qu'il ait. Parce que l'expérience, en fait, c'est la personne qui fait que...
On pouvait vous donner, par exemple, la santé, comme c'était votre domaine.
Oui.
C'est dans ce sens-là que je dis que vous n'aviez aucune expérience par rapport à la défense.
Bon, au ministère des anciens combattants, si vous voyez bien, je m'occupais de ceux-là qui ne sont plus vraiment actifs. Et donc, si vous regardez de près, c'est un ministère social, plus social que vraiment l'armée, la défense, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord, c'est appliquer la politique qui concerne les anciens combattants. Mais quand vous regardez bien, c'est plus soulager leur... c'est social, quoi. C'est plus social qu'autre chose, quoi.
Et vous étiez appelé à travailler avec les hommes,
avec des militaires. Avec des militaires. Alors, ce qui est arrivé, c'est que normalement, le bureau du vice-ministre des anciens combattants se trouvait là où se trouve le secrétariat général des anciens combattants. Et quand je suis arrivée là, je ne sais pas si c'est heureusement ou malheureusement, ce bureau avait brûlé un mois avant. Et donc, par la force de choses, on m'a donné un bureau au ministère, donc à l'état-major général, donc au ministère de la défense. Et là, c'est tous les jours, donc j'étais avec les militaires, et donc j'ai recevé les honneurs militaires chaque matin.
Vous passiez les troupes en revue.
J'ai même passé les troupes en revue. Et donc, voilà, donc j'ai profité de ça pour bénéficier quand même des privilèges d'être au ministère de la défense.
C'était une belle expérience pour vous?
C'était une très très belle expérience et vous savez, moi-même personnellement, j'étais très mal à l'aise. Je suis très mal à l'aise. Chaque fois que j'entends, on parle des militaires comme étant des voleurs, des violeurs, etc. Je ne dis pas que parmi eux, on ne retrouve pas ces gens. Mais l'image que moi j'ai gardée de la défense, en fait quand vous arrivez au ministère de la défense, là vous découvrez vraiment ce qu'est l'armée. Parce que moi-même j'ai voyé ça de loin, mais quand vous arrivez là-bas, vous vous rendez compte que le pays, en tout cas pour ce qui concerne la Deuxième République, on a beaucoup investi dans la formation de nos militaires. Et donc là, vous trouvez des gens qui ont été formés dans des grandes académies, ici au niveau national, des grandes académies militaires, dans beaucoup de pays, américaines, européennes, israéliennes. Il y a vraiment des ressources humaines. Et donc, nous ne pouvons pas cracher sur eux comme ça, voilà, une bande de voleurs et des violeurs. C'est vrai que dans toutes les associations humaines, dans toutes les, il y a toujours des gens, il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des tricheurs. C'est vrai. En fait, je veux vous dire, je me suis intéressée quand je suis arrivée au ministère chez les anciens combattants. J'ai essayé de m'intéresser à l'histoire militaire de nos forces armées. Je commençais par ceux des anciens combattants. Quand vous regardez bien les anciens combattants, ceux qui ont fait partie de la force publique, donc ceux depuis que Léopold II a pris l'État indépendant du Congo jusqu'à l'indépendance en 1960, lorsque vous regardez très bien, ce sont des gens qui n'ont jamais connu la défaite. C'est vrai que le commandement était assuré par les Belges et les colons. Mais les gros des troupes étaient formés par des Congolais. Et ces gens, jusqu'à l'indépendance, n'ont pas connu la défaite. Vous prenez l'histoire de notre pays depuis 1960 et jusque, on va dire jusque 1990. Je prends la marge la plus grande. Lorsque vous lisez l'histoire militaire de notre pays, ce sont des militaires, ce sont des gens qui ont fait la fierté de ces pays. Nos militaires on les envoyait au Tchad, ils sont allés au Rwanda. Ouais. Ils ont remporté des grandes victoires. C'est seulement vers la fin, vers les années 90, peut-être tout récemment, que l'armée a connu ce que nous tous nous connaissons. Mais est-ce que...
C'est quoi ce que nous tous nous connaissons?
Mais vous savez, c'est la faillite, en fait l'armée a connu la faillite, mais ça on retrouve ça dans toutes les structures de notre pays. Vous allez dans tous les domaines de notre pays, il fut un temps où nous étions très forts et puis nous avons connu une période
une régression
et puis voilà quoi. Donc maintenant quand j'ai vu la victoire des FARDC à Rutshuru, je me suis dit voilà, ça, ce sont les FARDC que moi je connais. C'est ça l'image que j'ai en fait des nos forces armées. Donc la question que vous m'avez posée, quelle expérience? Je garde une très belle image de nos forces armées. Je garde une très belle expérience de mon passage au ministère de la Défense et des Anciens Combattants.
Vous n'avez pas eu des petits soucis avec les hommes avec qui vous travaillez dans ce ministère? Les hommes acceptent quand même difficilement d'être commandés par une femme. En plus, une femme qui est civile, qui n'est même pas militaire.
C'est vrai, mais je vous dis, dans l'armée, c'est différent. L'armée, c'est un corps, c'est un ordre. Et donc là, les respects du titre. Là, j'imagine qu'il me voyait pas comme une femme comme ça, une civile. Il voyait la fonction que j'incarnais. Hein. Je pense que c'est ça. Non, à l'armée, franchement, je n'ai pas senti. Au contraire, beaucoup me disaient qu'ils étaient honorés de voir une femme à ce poste-là. Et non, j'ai pas eu cette impression.
Et votre mari, il a accepté facilement que vous occupiez cette fonction de vice-ministre?
Ben écoutez, je crois que je l'ai honoré quand même, avoir une femme. Je crois que c'est à lui qu'il faut poser la question, mais je pense que je l'ai honoré. Avoir une femme qui est vice-ministre des anciens combattants, ça ne court pas les rues.
Le danger aussi, c'est que quand une femme devient ministre, elle se croit supérieure. Elle oublie un peu la famille, les tâches ménagères. Elle emmène son titre de vice-ministre à la maison.
Écoutez, Kelly, il faut même pas aller au niveau dire voilà une femme qui est ministre. Même vous, le travail que vous faites, vous pouvez amener votre titre à la maison. Et donc ça dépend d'un chacun, ça dépend de la base que vous avez, ça dépend de l'éducation que vous avez eue. Je ne sais pas en quoi est-ce que... Et puis il faut vraiment éviter de tomber dans les pièges de pouvoir, parce que vous savez, le pouvoir corrompt. Hein. Je vous dis, moi je passais les troupes en revue, j'ai recevé les honneurs militaires chaque matin. Et donc si vous ne faites pas la part des choses entre votre personne et la fonction que vous assumez, la fonction que vous incarnez, vous êtes très très vite tomber dans un piège. Donc, vous risquez de gonfler votre ego. Et quand tout cela est terminé, c'est difficile de revenir. Vous regrettez après.
Et comment vous arriviez à concilier le travail et la famille?
Bon, je ne peux pas dire que c'est facile de combiner d'abord même les études. Je vous ai dit que j'ai commencé à faire les enfants pendant que j'étais aux études. Ce n'est pas évident, c'est pas facile. La même chose quand vous travaillez, vous devez concilier la vie familiale. Ce n'est pas vraiment évident, surtout quand les enfants sont encore petits. Mais l'avantage que nous avons dans nos pays africains, c'est que vous pouvez appeler des membres de famille pour vous aider. Les voisins, s'ils sont gentils avec vous, ils peuvent de temps en temps vous aider. Donc tout ça dépend de ceux qui vous encadrent. Et donc, ce n'est pas facile, c'est vrai, mais on arrive quand on le veut, on arrive quand même à le faire.
Alors il y a un mauvais souvenir que vous avez gardé lors de votre passage à ce ministère?
Bon, le mauvais souvenir que j'ai gardé, c'est que la plupart des choses que je voulais faire, parce que vous savez, quand vous arrivez dans un ministère comme celui-là, vous dites voilà, je vais quand même faire ceci, cela, pour quand même marquer la conscience de ces gens avec qui pour qui on vous a choisi. Il y a des choses que je n'ai pas pu faire et donc c'est ça que je regrette quand même.
Alors, docteur Yvonne Iyamulemie, comment vous passez vos moments de détente quand vous n'êtes pas occupé?
J'aime beaucoup la musique, j'écoute donc beaucoup de musique, j'aime beaucoup la lecture et donc voilà quoi.
Quel genre de musique vous écoutez?
En tout cas, je peux dire que je suis une fan des musiques. J'écoute toute la musique. J'écoute la bonne musique, les anciens succès, la musique française, la country music, les jazz. J'aime vraiment la musique de façon générale. Mais notre musique congolaise, notre rumba congolaise, je l'aime beaucoup aussi. Donc, Fali, Kofi, tous ces gens, j'aime la musique de façon générale.
Alors, on va vous faire plaisir. Dites-nous, vous avez envie d'entendre quoi? Sur Radio Capi.
Mettez, je sais pas, Kofi.
Quel titre?
Pharmacien, vous avez?
Pharmacien de Kofi, je crois qu'on en a.
Voilà, pharmacien. S'il n'y a pas pharmacien, vous mettez le médecin. Mettez pharmacien, c'est... Parce que mon mari est pharmacien.
Ah, d'accord. Alors, ça sera aussi pour faire plaisir à votre mari.
C'est ça.
Si il nous suit en ce moment. J'espère qu'il nous suit. Alors, Jean-Noël Mokondo, tu nous fais plaisir en nous balançant la chanson Pharmacien de Kofi. Je crois qu'il a chanté avec Fally ou Ferré.
Je ne sais plus, je crois.
Bon, Jean-Noël, tu nous balances la musique.
Général d'Abiradi RTV. Faut pas confondre rêver sa vie et vivre ses rêves. Kubuli yonde la kapete mo alubu nyoma kapete ya.
Ota mote maneme li veli kadake kake bo yiko sila.
Alain Barakuda.
Natuni monga nalobi nanga gala luka po mote.
Oturoba.
Ita mote amela masanga na kate ya nibaya.
Yo yive bola.
Yesta la kana rezo ya.
Seche fula mambo.
Ita boli melo bisinga.
Petit.
De leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Couté sur Radio Okapi.
Grand Témoin vous fait découvrir aujourd'hui Dr Yvonne Iyamulemier Kabano. Elle est ancienne vice-ministre des anciens combattants, ancienne présidente du conseil d'administration de l'Institut national de statistique. Après le ministère, oui. Vous êtes nommée présidente du conseil d'administration de l'Institut national de statistique.
Oui.
Et là, c'était toujours par rapport au parti politique.
C'est ça, oui. C'était toujours par rapport au parti politique. Et là encore, c'était une autre expérience, une aussi belle expérience que j'ai eue à l'Institut national des statistiques. Et là aussi, j'ai découvert que nous avions beaucoup de ressources humaines. Nous avons vraiment les pays... est riche en tout, même les ressources humaines. Je veux vous dire, Kelly, pour ce pays, il suffit seulement d'un peu de levain pour faire lever la pâte. Donc, à l'Institut national des statistiques, là aussi, je garde un très, très bon souvenir. Et je suis heureuse aujourd'hui d'apprendre que, voilà, recensement général de la population et de l'habitat va se faire. J'aurais bien aimé que ça se passe quand
quand vous y étiez.
Bon, voilà, mais c'est ça, quoi.
Mais on parle... pas trop de cet institut. On a l'impression que c'est un institut qui est abandonné, hein.
C'est ça, mais
qu'est-ce qui explique cela?
Bon, écoutez, je sens quand même qu'avec les nouveaux gouvernements, je pense que on est en train de réveiller cet institut.
Mais vous savez, quand vous étiez là.
Mais vous savez,
qu'est-ce qu'on
ne peut pas faire la planification. Si on ne connaît pas les chiffres, si vous n'avez pas les statistiques du pays. Et donc, je crois qu'il est vraiment, il était vraiment plus que temps que cet institut soit remis à sa, soit révalorisé, parce que vous ne pouvez rien faire dans un pays si vous n'avez pas, si vous vous basez seulement sur de
Est-ce
de
que projections. Vous avez essayé à revaloriser cet institut?
Ben, écoutez, le travail d'un président du conseil d'administration, d'abord c'était un institut qui est sous tutelle du ministère, d'abord du portefeuille et du ministère du plan. Et donc, l'impulsion devrait venir de ces deux ministères qui chapeautent cet institut. Et donc, comme je vous l'ai dit, de plus en plus, je sens quand même que les gens se rendent compte que il faut quand même travailler avec cette institution-là.
Alors là, vous évitez ma question. Je parle de votre époque à la tête de cet institut.
C'est ça.
Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de révaloriser, même si vous dites que l'impulsion devrait venir du ministère du plan ou du portefeuille,
oui.
Mais à votre niveau?
À mon niveau, vous savez, quand vous êtes présente du conseil d'administration, votre travail consiste à d'abord vous représenter l'entreprise hein, auprès des tiers, ce que je pense que j'ai essayé de faire. De toute façon, il y a les termes de référence pour les termes de référence qui existent, le président du conseil d'administration, c'est ce que j'ai essayé de suivre. Et donc, je ne voudrais pas marcher sur les plates. Je n'ai pas voulu marcher
vous
sur les plates
bandes des autres. Il y avait des limites.
Ben voilà, vous savez, dans chaque poste, il y a des limites que vous ne pouvez pas franchir. Donc, moi, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Et, je crois qu'il faudrait quand même poser la question à ceux qui ont travaillé avec moi pour leur dire, voilà, il y a des choses qu'elle n'a pas pu faire, il y a des choses qu'elle aurait dû faire. Je pense que je ne peux pas moi-même parler de...
Non, mais vous-même, vous pouvez faire un petit bilan de votre passage, là. Si vous étiez satisfaite ou pas.
Je vous dis que je suis restée quand même aussi sur ma soif parce que bon, il y a des grandes activités qui devaient qu'on a fait commencer on en parlait déjà les recensements généraux de la population et de l'habitat qui va se passer pendant que je ne suis pas là et donc je reste quand même parce que j'aurais quand même aimé participer à ces différentes activités.
À vous entendre parler, je sens que vous aviez envie de faire beaucoup de choses, mais vous étiez limité. Il y avait des choses que vous ne pouviez pas faire. Il fallait attendre l'impulsion de ces deux ministères. Oui. Alors, vous avez travaillé là-bas jusqu'en 2011.
Oui.
Et après 2011...
Après 2011, donc, j'ai perdu mon poste là parce que je suis allée me représenter aux élections législatives dans les Rutshuru. Les élections ont été ce qu'elles ont été. Donc, voilà quoi.
C'est ce que toutes les personnes qui n'ont pas été élues disent. Hein. Donc, vous estimez que vous aviez beaucoup de voix pour être élue?
Je ne veux pas revenir sur des mauvais souvenirs, mais la première liste qui était sortie, mon nom était là. Et à la seconde, mon nom n'y était plus. Donc voilà, quoi, c'est ce qui est arrivé.
Et vous allez tenter encore la chance aux prochaines élections 2016?
Oui, je pense que j'ai vu
encore...
Vous
n'abandonnez pas?
Je n'abandonne pas parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont donné leur confiance. Et vous savez, il y a la différence entre être élu et être voté. Je crois que les gens m'ont donné quand même leur voix, même si je ne me suis pas retrouvée sur la liste des élus ou des votés.
Vous tenez à tout prix à siéger à l'Assemblée nationale?
Non, je ne tiens pas à tout prix à siéger à l'Assemblée nationale. Je me dis comme c'est une ça se présente, c'est une occasion qui se présente, pourquoi pas? Je vais essayer, mais je crois que je peux faire ma vie sans être. Je crois que je ne suis pas à l'Assemblée, je suis toujours vivante.
Alors un petit commentaire par rapport au discours du chef de l'État hein, devant le Congrès lors de son dernier discours, oui. Qui a estimé que les femmes devaient être beaucoup plus représentatives. Que ce soit dans les partis politiques, dans les institutions de la République. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est vrai, parce que souvent les gens pensent que le pouvoir, les postes comme ça sortent comme ça du néant. Il faut lutter dans les partis politiques, vous avez vu. Et puis il faut avoir de l'ambition, parce que si vous allez dans un parti politique juste pour être là et attendre que les postes vous tombent du ciel, non, il faut se battre. Et donc c'est ça, il faut que beaucoup de femmes adhèrent dans les partis politiques et c'est prouvé. Je pense qu'il y a des statistiques qui prouvent que plus il y a des femmes dans les institutions et plus les choses vont mieux, plus la société s'améliore.
Et donc vous encouragez les femmes à s'impliquer
Bien sûr, j'encourage les femmes...
Dans la gestion de la chose publique.
C'est ça, j'encourage vraiment les femmes je crois que les statistiques sont là, mais les statistiques sont là. Quand il y a plus de femmes, plus il y a des femmes, plus la société s'améliore. C'est ça. C'est pas moi qui vais le dire parce que je suis femme. Non, c'est connu, c'est prouvé que il faut vraiment que les femmes s'investissent dans tous les domaines de la vie. Hein. Il n'y a pas que en politique. Il faut qu'ils adhèrent dans des partis politiques, adhérer et puis viser les postes de responsabilité, ne pas être là. Parce que les femmes doivent être là. Non, non, non. Il faut vraiment s'affirmer, s'exprimer. C'est ça.
Qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes? Elles ont envie de se lancer, de s'impliquer, mais elles se sentent un peu inférieures à l'homme, alors qu'elles ont cette capacité-là de pouvoir travailler comme l'homme, quoi.
Écoutez, Je ne peux pas non plus dire que voilà, entrer en politique, aller dans des associations, c'est facile. Nulle part, ça n'a jamais été facile. Mais bon, il faut se battre. Hein. On n'a rien pour rien. Il faut se battre. Et puis, voilà, ça va arriver. Et toi, et le ciel t'aidera. Donc, il faut faire d'abord un premier effort. Et puis, le reste va suivre.
Docteur Yvonne, oui. C'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Nous sommes à la fin de notre entretien. Ça m'a fait plaisir de passer ces presque 45 minutes avec vous dans ce studio.
Tous les plaisirs étaient pour moi aussi.
Alors un mot à tous ces auditeurs, surtout à votre base de Rutshuru qui oui. nous suit en ce moment.
Oui, en tout cas pour ma base de Rutshuru, je les avais déjà envoyé un message d'encouragement. Hein. Beaucoup, je sais que beaucoup sont rentrés après la victoire des FARDC. Je leur ai dit courage. J'ai demandé à ces, vous savez. La population, enfin de l'Est en général, de Rutshuru en particulier, ça fait plus d'une décennie qu'ils vivent la guerre. Il y a, je crois que dans la mythologie grecque, c'est le mythe d'Orphée, hein, je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi, qui dit que quand quelqu'un a côtoyé la mort et revient dans le monde des vivants, il n'est plus, ouais. il n'est plus le même homme. Et donc, pour ces gens, il faut un plus, il faut un encadrement, je suis médecin, psychologique, médical, social, environnemental, pour que ce soit des gens, des vertébrés. Parce que, vous imaginez quelqu'un qui avait 10 ans quand les guerres ont commencé, aujourd'hui il a 25 ans, il a passé plus de... toute son adolescence
aller d'un village à un autre
pour fuir la guerre. Et donc vraiment c'est une population pour laquelle moi personnellement je me dis il faut vraiment essayer de les leur envoyer beaucoup de pensées positives parce que c'est pas facile.
Docteur Yvonne, merci d'être venu dans notre studio.
Je merci beaucoup Kelly.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Dr Yvonne Iyamulenye-Kabano, ancienne vice-ministre des anciens combattants, ancienne présidente du conseil d'administration de l'Institut national de statistique. Merci à Alain Goy et Jean-Noël Mokondo qui étaient à la technique au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radioocapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.